France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Entrer à l'hôpital pour une chirurgie de la cataracte ou la pose d'une prothèse de hanche, en sortir le lendemain en pleine forme et développer peu après une infection sévère, difficile à traiter et à l'origine parfois de lourdes séquelles. C'est ce que l'on appelle contracter une infection nosocomiale, une infection donc associée aux soins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela vous inquiète. 47% des Français qui doivent passer par un établissement de soins disent craindre d'y attraper des maladies. Une crainte justifiée, puisque chaque année, plus de 500 000 patients contractent une telle infection, causant près de 4 000 décès, ce qui est plus que ceux causés par les accidents de la route. Comment expliquer ces chiffres? De quel type d'infection parle-t-on? D'où viennent les germes responsables et surtout, pourquoi sont-ils de plus en plus résistants aux antibiotiques? Est-ce qu'on peut éviter ce risque? En tout cas, on peut le réduire et vous verrez que le patient lui-même a dans ce domaine un rôle très important à jouer. Une politique est engagée depuis des années pour lutter contre ce fléau. Des services dédiés ont été créés. Des médecins y consacrent leur temps et c'est le cas de notre invité, le professeur Solène Kernéis. Solène Kernéis, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service de prévention du risque infectieux des hôpitaux Bichat, Beaujon et Bretonneau de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors, on connaît tous les services de maladies infectieuses où on prend en charge des patients atteints d'infections bactériennes, virales ou autres. Honnêtement, on connaît mal ces services de prévention du risque infectieux et j'avoue à ma grande honte que je ne savais pas que ça existait au sein de la PHP. Donc voilà, je fais mon mea culpa. Donc, parlez-nous-en, c'est quoi ces services? On y soigne des patients? On y fait quoi?
Alors, on n'y soigne pas à proprement parler des patients, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur administrer des traitements. On n'est pas dans un objectif qui est la thérapeutique. On est vraiment dans un objectif de prévention, comprendre comment les microbes se transmettent dans les hôpitaux et apporter des solutions pour les prévenir, justement. Et ce qui est intéressant dans ces équipes, en fait, c'est qu'elles sont composées, vous l'avez dit, à la fois de médecins, mais également de pharmaciens, de cadres de santé, d'infirmiers, d'infirmières, de techniciens spécialistes des bactéries, qui eux-mêmes, avant, travaillaient en fait dans des services de soins et qui, à un moment donné, en fait, de leur vie professionnelle, ont voulu s'intéresser à ces stratégies de prévention.
Et ça existe depuis quand, ces services?
Alors, ça existe depuis une trentaine d'années.
Ah oui, ouais. Ma honte est immense alors.
En fait, dans les années, fin des années 80, 90, c'est un décret qui a été signé pour en fait créer ces équipes. Et la France s'est à ce moment-là dotée d'une politique assez ambitieuse pour réduire les infections nosocomiales. Et donc ces équipes ont été créées et elles sont présentes sur tout le territoire. C'est même réglementaire, si vous voulez. Il faut en fait un praticien spécialiste en prévention du risque infectieux dans chaque établissement de santé français.
On comprend donc bien que ces infections nosocomiales ne datent pas d'hier. On va quand même, bien sûr, les redéfinir. Je le disais, ces infections sont associées aux soins. Ça veut dire que le patient, quand il rentre, il n'est pas malade. Enfin, il est malade d'autres choses pour lesquelles il rentre, exactement, mais il n'a pas cette infection.
En fait, la définition classique qu'on utilise pour une infection nosocomiale, c'est une infection typiquement qui est contractée dans un établissement de santé, donc à l'hôpital ou dans une clinique. En fait, cette définition, elle est un peu restrictive parce qu'elle s'applique aux établissements de santé. Maintenant, on définit un cadre plus large, ce qu'on appelle les infections associées aux soins, c'est-à-dire toutes les infections qui vont arriver au décours d'une prise en charge, quel que soit l'endroit où ça va se passer.
Aussi une maison de santé, différentes établissements.
Une maison de retraite, etc. Et donc, les infections nosocomiales, pardon, sont vraiment celles qui sont acquises à l'hôpital et qui n'étaient pas présentes à l'entrée du patient dans l'hôpital.
Et pour qu'on puisse dire que c'est une infection nosocomiale, les symptômes arrivent combien de temps après?
Alors ça, c'est une question qui est très difficile. Donc, on a un certain nombre de définitions pour standardiser un peu les choses. On considère qu'une infection qui survient au minimum 2 jours après le début de l'hospitalisation est suspectée comme étant une infection nosocomiale. Ce délai peut être plus long quand il s'agit d'une infection qui survient après une chirurgie. Par exemple, on considère un délai de 30 jours, d'accord, voire même jusqu'à 1 an quand on a posé une prothèse ou un implant. Mais ce qui est important de noter, c'est que ces définitions, c'est vraiment pour qu'on mesure toujours la même chose, qu'on soit bien d'accord sur la même définition. Mais toutes les infections qui surviennent dans ces délais-là ne sont pas toutes des infections nosocomiales. Il faut faire une investigation particulière pour s'en assurer.
Alors vous parliez de chirurgie, on va écouter Benjamin qui a été victime d'une infection nosocomiale lors d'une chirurgie. Il en parle, il décrit ses symptômes. C'est un témoignage recueilli sur France Bleu. Écoutez.
C'était à l'occasion d'une opération, à la suite d'une opération du genou. Voilà, j'ai une infection qui s'est déclenchée. Alors, un mois après l'opération, la veille du déclenchement de cette infection, je commençais à avoir de la fièvre, à avoir très mal au genou. avoir le genou gonflé. Dans la nuit, des variations de température. Je me suis élevé, j'étais tombé. Enfin, j'avais plus de force dans la jambe. Et le lendemain matin, j'ai mon genou qui a pas éclaté, mais voilà, j'ai les points de, où j'avais les points de suture, ça s'est ouvert. Et voilà, c'est là qu'on a pris peur.
Alors, pour Benjamin, infection du site opératoire, c'est assez classique, c'est bien connu, ça survient soit pendant l'intervention, soit lors des soins ultérieurs, et donc c'est des signes locaux, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme autres infections qui peuvent survenir? Quels symptômes peuvent alerter le patient?
Alors, en fait, l'infection du site opératoire, c'est celle qu'on a souvent en tête, qui peut être grave, mais qui n'est pas du tout la plus fréquente, finalement. Et de façon assez surprenante, les infections les plus fréquentes dans les infections nosocomiales sont les infections urinaires. Et souvent, elles sont associées, en fait, au fait qu'on a mis une sonde urinaire. C'est-à-dire,
ce qui est très fréquent, ça.
Exactement, c'est très fréquent. C'est un petit tuyau qu'on va mettre dans la vessie quand le patient ne peut pas uriner tout seul. Donc, l'infection urinaire en 1... Le deuxième type d'infection nosocomiale, c'est les pneumonies acquises à l'hôpital. Et ça concerne beaucoup les services de réanimation, puisque là aussi, pour la respiration artificielle, on met un tuyau en fait, pour aider les patients à respirer. Ça favorise le risque d'infection. Ensuite vient l'infection du site opératoire, donc les infections après chirurgie. Et puis, d'autres infections qui sont plus rares, mais qui peuvent être graves, des bactériémies, ce qu'on appelle des septicémies. Et là, elles sont souvent en lien en fait, avec la pose d'un cathéter. En fait.
Une petite voie qui permet de passer des produits ou de faire des prises de sang, différentes choses qu'on passe effectivement.
Exactement.
Et on fait une effraction sanguine, donc effectivement, il y a un risque. Pour qu'on comprenne bien, ces germes qui arrivent et qui provoquent ces infections, elles viennent d'où? Elles viennent du personnel médical chirurgical, elles viennent du malade, des visiteurs, d'un autre malade, ça vient d'où?
Alors ça, c'est un point qui est aussi très important et qui est assez méconnu. L'écrasante majorité des infections nosocomiales sont en fait dues à des bactéries qui sont portées par le propre patient, ce qu'on appelle des réservoirs endogènes. On vit tous les jours avec des bactéries.
Pour lesquelles on vit bien tant que tout va bien.
Exactement, on a des bactéries partout, sur la peau, dans les poumons, dans le tube digestif, bien sûr, le microbiote vaginal aussi. Le problème survient quand ces bactéries se retrouvent d'un réservoir normal à un endroit où elles ne devraient pas se trouver. Et ça arrive notamment quand on fait ce qu'on appelle des gestes invasifs, c'est-à-dire ce que je vous disais juste avant, quand on va mettre un tuyau, entre guillemets, sur le patient. Ensuite, il y a d'autres types de réservoirs, des réservoirs exogènes, c'est-à-dire qu'on peut acquérir l'infection à partir d'un autre patient. C'est beaucoup plus rare, mais c'est le cas par exemple sur la grippe, les infections virales.
Ça a été le cas sur le Covid,
exactement,
bien sûr.
Exactement. Et puis,
j'explique bien, beaucoup de patients rentrés pour autre chose ont contracté le Covid pendant leur hospitalisation au moment de la crise.
Surtout au début, ça a été très important. En fait, il y a eu des transmissions qui sont passées entre différents patients. Puis le troisième réservoir possible, c'est un réservoir environnemental, dans l'eau, dans l'air qu'il y a à l'hôpital. Mais ça, c'est extrêmement rare, puisqu'on fait des contrôles très fréquents à l'hôpital, justement pour éviter ce type d'infection à partir de l'environnement.
Alors ce que vous dites, effectivement, que c'est avant tout le propre malade, ça permet de parler prévention. On va en parler dans un instant, mais on parle quand même de plus en plus de ces infections, avec parfois des conséquences très graves. Est-ce que c'est lié au fait notamment qu'on traite de plus en plus des patients âgés, très malades, porteurs de plusieurs pathologies, fragiles, et qu'effectivement, du coup, le risque augmente, et chez eux aussi que ces pathologies sont les plus graves?
Alors oui, en effet, si on regarde un peu les facteurs de risque d'infection associés aux soins, on voit l'âge. Donc ça, c'est pas un facteur qui est modifiable. Et donc les âges extrêmes, les tout petits bébés et les personnes les plus âgées, en fait, le risque augmente dès 65 ans. C'est très jeune, 65 ans, mais ça augmente le risque.
C'est vrai, c'est très très jeune. Ce sont des enfants, nous sommes d'accord.
Le fait d'avoir des pathologies chroniques, notamment le diabète, le fait d'avoir une diminution de ses défenses immunitaires. Et puis après, il y a le type de geste invasif qu'on va réaliser et qui va modifier un peu le risque d'infection, en effet.
Alors, un des caractères de gravité de ces infections, c'est que c'est avant tout lié à deux germes. Il y a beaucoup de choses, mais c'est avant tout les Escherichia coli et les staphylocoques dorés. Très logiquement, on se dit, c'est des bactéries, très bien, on va donner des antibiotiques. Et on est confronté au problème de bactériorésistance. Vous pouvez nous expliquer ça?
Alors, Effectivement, sont des bactéries qu'on porte habituellement dans le corps, mais sous l'effet de différentes choses, soit la prise d'antibiotiques, soit le fait qu'il y a une transmission à partir de quelqu'un d'autre, on peut se retrouver porteur d'une bactérie multi ou hautement résistante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, on est juste colonisé avec cette bactérie, c'est-à-dire qu'on la porte, mais on ne fait pas une infection due à cette bactérie résistante. Dans un certain nombre de cas, il peut arriver qu'on fasse une infection à cause de cette bactérie résistante. Et c'est vrai que là, on est embêté, puisqu'il faut avoir recours à des antibiotiques un peu différents, plus forts, entre guillemets, en tout cas, qui vont être actifs sur ces bactéries résistantes. C'est un vrai problème, la résistance aux antimicrobiens, puisque pour ce qui est des bactéries hautement résistantes, c'est-à-dire multirésistantes à de nombreux antibiotiques, on a eu un doublement en fait du nombre de ces bactéries résistantes en France entre 2019 et 2022. Donc on est extrêmement vigilant là-dessus.
On a déjà, comme aux États-Unis, en France, des bactéries pour lesquelles on n'a plus d'antibiotiques.
Alors, à vrai dire, c'est une situation qui est exceptionnelle. C'est très rare parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même à l'hôpital des antibiotiques qu'on appelle d'exception. Des antibiotiques qui sont spécifiques et qui ont été développés pour permettre de lutter contre ces bactéries-là. Ils ne sont pas disponibles en ville, mais on les a à disposition à l'hôpital.
Et on peut dire là aussi qu'on a tous un rôle à jouer pour réduire cette bactériorésistance. Quand on a un traitement antibiotique qui est prescrit, on le respecte à la lettre et on ne prend pas ça en dehors des prescriptions.
Exactement. Et puis quand votre médecin vous dit, écoutez, vous avez une angine, il a fait un test, mais elle est d'origine virale, il faut attendre que les choses passent, prendre.
C'est pas la peine d'aller puiser dans votre pharmacie s'il reste des antibiotiques.
Surtout pas.
Voilà, c'est important. C'est un problème énorme, mais selon l'OMS, 70% de ces infections pourraient être évitées. C'est le but évidemment de votre service. Alors déjà, on va prendre des moyens de prévention bien connus, notamment des gestes adoptés par les Français depuis le Covid, même s'ils se relâchent, que tout le monde peut faire évidemment. Le port du masque quand on est enrhumé ou en présence d'un malade très fragile, le lavage des mains indispensable, ça vaut pour tout le monde tout le temps en dehors de toute crise sanitaire.
Oui. Alors juste pour revenir sur le chiffre que vous avez cité, oui. C'est un chiffre à l'échelle mondiale. Oui. En France, on n'est probablement pas à 70% d'infections évitables, parce que comme je vous le disais, on a déjà mis en place un certain nombre de politiques et on a déjà un taux qui est quand même bas, puisqu'à l'échelle de l'Europe.
On pourrait réduire quoi, de 40%?
À peu près de cet ordre-là, en effet. Pour vous donner une idée, en 20 ans, les infections post-opératoires, elles ont diminué de 50%. Donc c'est pour donner quand même un message positif. Il y a eu un effet très positif des politiques de prévention.
Et je voudrais juste qu'on précise là, parce que c'est très compliqué à vivre pour les malades, c'est compliqué aussi à vivre pour les chirurgiens, hein, parce que ils ont tout fait bien et leur patient va mal et le supporte mal et c'est normal, mais c'est pas forcément une faute. Hein.
Exactement, et ça c'est important de le dire, infection nosocomiale n'est pas synonyme de faute. Certaines infections sont parfaitement évitables avec des procédures bien établies, mais dans certains cas, pour certaines, notamment en chirurgie, on ne va pas pouvoir éliminer totalement le risque d'infection nosocomiale. Et donc malheureusement, on peut être confronté à une complication de ce type, alors même que tous les protocoles ont été suivis. Et ça a un impact très fort sur les patients, bien entendu. Il y a une forme d'injustice qu'on peut tout à fait comprendre, mais ça a un impact aussi sur les praticiens qui comprennent pas toujours ce qui a pu se passer.
Donc je parlais des mesures de base, le masque, le lavage des mains.
Exactement.
On n'arrête pas ça depuis le Covid, il faut continuer en permanence.
Oui, on répète toujours les mêmes choses. Et
finalement, c'est casse-pied, mais quand on est enrhumé, c'est bien de le mettre.
Ce sont des mesures qui sont très simples, des mesures de bon sens. Hein. Donc vraiment l'hygiène des mains. Alors pour les patients, eau, savon, ça suffit. À l'hôpital, on utilise de la solution hydroalcoolique, mais en ville, l'eau et savon, ça marche très bien. Quand on a le nez qui coule, qu'on tousse, tout simplement, on met un masque. Puis à l'hôpital, on a d'autres choses. On désinfecte évidemment tous les matériels qu'on va utiliser entre deux patients. On stérilise tout le matériel qui rentre au bloc opératoire. Enfin, ça, c'est vraiment les mesures qu'on appelle des précautions standards, si vous voulez.
Et si on peut penser, quand on va avoir des amis à l'hôpital, de laisser son portable dans son sac, qui sont des nids à bactéries.
Tout à fait.
C'est plutôt une bonne chose. Alors, les patients, c'est vrai, ils savent peu. Ils ont un rôle très important à jouer quand ils vont être opérés ou hospitalisés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, merci pour cette question, parce que c'est vraiment important de dire aux patients qu'ils ont un rôle à jouer, ils doivent être au centre.
Ils sont acteurs.
Exactement, ils sont au centre de leur prise en charge. La première des préconisations, c'est de suivre les instructions de leur chirurgien ou de leur chirurgienne si on s'intéresse spécifiquement à l'infection post-opératoire. Donc ça, il faut bien suivre ce qu'on vous a demandé de faire. Deuxièmement, il y a des facteurs.
Vous parlez par exemple de la douche.
Oui.
La veille au soir, le matin.
Exactement. Donc ça, c'est un point important. On va vous demander une préparation cutanée. année. Et donc, il faut maintenir un bon niveau d'hygiène et donc faire une douche. Alors, quand on est hospitalisé, on la fait à l'hôpital. Mais quand on est ambulatoire, on peut être amené à la faire chez soi.
Et donc, si on vous donne un produit, c'est pas pour utiliser le savon de Marseille.
Exactement. Même si le savon de Marseille est probablement une bonne
idée. On suit l'ordonnance.
Exactement. Il faut se conformer à ce qu'on vous a demandé de faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Et on peut arrêter de fumer, par exemple, en préopératoire.
Combien de temps avant ?
Alors, on considère qu'à partir de 4 semaines, il y a un bénéfice très clair au fait d'arrêter de fumer avant la chirurgie.
Pour réduire le risque d'infection.
Exactement.
Parce que vous connaissez la réduction du risque de mauvaise cicatrisation, mais il y a aussi le risque d'infection.
Oui, tout à fait, parce que mauvaise cicatrisation augmente le risque d'infection. D'accord. Donc, arrêter de fumer, c'est toujours un bon conseil. Et si on a une chirurgie programmée, il faut vraiment le faire avant. Équilibrer son diabète, éventuellement voir son dentiste.
Oui, parce qu'il y a des infections qui peuvent venir d'une infection dentaire.
Voilà, donc vérifier qu'on a une bonne hygiène bucco-dentaire et pas de foyer infectieux. Le patient a un rôle très important à jouer dans la surveillance post-opératoire aussi, qui regarde sa cicatrice, il voit s'il y a des choses anormales, que les soins soient bien faits dans les règles de l'art. Puis il y a un point qu'on oublie souvent, mais qui me semble important, c'est que c'est bien d'être à jour de ses vaccinations avant de rentrer dans un hôpital, notamment la vaccination contre la grippe, contre le Covid, quand on a des facteurs de risque. C'est un outil qui est très important aussi pour limiter les infections plus généralement dans l'hôpital.
Alors la contamination également par le matériel, c'est une crainte. Évidemment, la désinfection est aujourd'hui extrêmement bien validée. De plus en plus, il y a du matériel à usage unique pour différents soins et c'est un très grand progrès. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore là dans la contamination via le matériel ?
Honnêtement, moi, je suis très rassurée à ce sujet, dans le sens où les procédures qu'on a actuellement sur la stérilisation, la désinfection des matériels, c'est hautement performant. Et donc, les risques de transmission à partir de matériel, ils sont nuls, quasiment nuls. L'usage unique, évidemment, c'est la panacée, parce qu'on se dit, là, il y a vraiment zéro risque, mais il y a quand même un impact environnemental qui n'est pas négligeable.
Ça rassure les patients, mais c'est pas la panacée.
Et donc, c'est vrai qu'on travaille plus maintenant dans des techniques de désinfection les plus optimales, plutôt que de passer au tout usage unique, parce qu'on a cette considération écologique également bien en tête.
Également, on limite la durée d'hospitalisation, parce que le risque, c'est d'être à l'hôpital, bien évidemment. C'est pas pour vous mettre dehors, parce que vous dérangez, mais on veut réduire ce risque. De plus en plus, on fait de la chirurgie ambulatoire, pour beaucoup de gestes. Est-ce qu'il faut aussi développer, par exemple, les chimios à domicile, parce que c'est aussi un geste qui peut être à risque, et que finalement, si on le fait chez soi, on réduit ce risque ?
Alors effectivement, c'est un des objectifs de passer à l'ambulatoire, c'est de limiter les risques d'infection nosocomiale aussi. C'est important que ce soit parfaitement encadré, c'est-à-dire que le patient soit bien entouré, qu'il ait bien compris les enjeux.
Il ne se sente pas tout seul chez lui.
Exactement, qu'il ait un recours si besoin et qu'il y ait une éducation du patient en amont sur les signes d'alerte, etc. Pourquoi pas, c'est effectivement un point important. Puis il y a des choses intéressantes qui sont développées, par exemple des outils d'intelligence artificielle avec des applications smartphone qui permettent de prendre en photo, par exemple quand on est porteur d'un cathéter à la maison, pour détecter automatiquement des signes d'infection sur ce cathéter avec un algorithme et pouvoir alerter le médecin pour faire revenir le patient s'il estime qu'il y a un risque d'infection.
Et c'est à peu près un patient sur 20 qui est victime d'infection nosocomiale, donc il faut aller au-delà de tout ce qu'on propose déjà aujourd'hui. Est-ce qu'on cherche à développer de nouveaux antibiotiques en France ?
Alors, il y a des recherches actives sur effectivement les nouveaux antibiotiques. Donc là, on est plutôt dans de la thérapeutique, mais c'est vrai qu'il y a une recherche active sur ce sujet. Des antibiotiques qui à la fois cibleraient spécifiquement des bactéries très résistantes et qui auraient un impact moindre sur les autres bactéries, les bonnes bactéries. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la recherche de nouveaux antibiotiques.
On reparlera dans un instant avec la chronique d'Alexandra Delbeau du microbiote, mais le microbiote digestif, sa meilleure connaissance, là aussi, a un rôle à jouer.
Oui, c'est un point très important, parce que le microbiote, c'est un équilibre.
Donc c'est l'ensemble des germes qui colonisent notre appareil digestif.
Oui, en temps normal, donc digestif, cutané, ORL. Et donc, c'est vrai que c'est un équilibre. Et à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, en fait, ce microbiote est perturbé. Et donc, on étudie le microbiote pour comprendre quels microbiotes vont en fait retenir certaines bactéries résistantes. Et on a des pistes thérapeutiques à ce sujet sur le microbiote.
Est-ce qu'il y a aussi éventuellement des matériaux nouveaux ou de la conception de salles de soins, d'équipements, etc. qu'il faut développer ?
Oui, alors il y a plein de dispositifs qui sont en cours d'analyse, des outils de désinfection, par exemple par les UV qui ont le vent en poupe, des matériaux qui retiendraient moins les bactéries. Donc il y a beaucoup de travail avec des collègues industriels et d'innovation sur ces sujets-là.
Donc, je disais qu'on allait parler du microbiote. On reviendra évidemment à notre entretien juste après. Mais on va écouter la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo, qui est donc consacrée aujourd'hui à notre microbiote.
Comment sauver le microbiote humain ? Le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui peuplent notre organisme. Il y a des bactéries, mais aussi des virus, des champignons et des micro-organismes moins connus, comme les archées ou les protistes. Nous avons des microbiotes externes, comme celui de la peau, mais aussi internes, celui de l'intestin, de la bouche, du vagin. En fait, tout ce qui est au contact direct ou un peu indirect de l'environnement. Ainsi, il existe aussi des microbiotes dans la nature, chez les autres animaux, chez les plantes, bien sûr, des microbiotes des lacs, des rivières, des tourbières et plus généralement du sol, bref, partout des micro-organismes vivent en communauté et malheureusement, avec les activités humaines, ces microbiotes s'appauvrissent. Pascale Fonèche est professeure assistante dans le département de microbiologie fondamentale à l'Université de Lausanne et au sein du pôle national de recherche microbiome.
Chez les humains, dans l'intestin, on a pu voir qu'il y a des tendances, par exemple, qu'on a plus de diversité chez des humains qui vivent un mode de vie traditionnel, par exemple dans les forêts au Venezuela, par rapport aux gens qui vivent dans des villes aux États-Unis. Il y a eu plusieurs études qui ont démontré cette corrélation, à savoir que cette corrélation n'est pas toujours le cas. Donc, on a aussi eu d'autres études où on a pu démontrer que ça dépend vraiment de la nourriture. Comme souvent, il y a aussi une nourriture plus diversifiée, en fait, dans des pays qui ont encore un mode de vie qui est plus traditionnel. Après, dans d'autres microbiotes, on a aussi pu démontrer que, par exemple, l'utilisation de pesticides appauvrissait, en fait, la diversité du microbiote qui se trouve dans le sol. Donc, on semble vraiment avoir, à travers les activités humaines et aussi, en fait, l'apport de produits qui, normalement, ne devraient pas se trouver dans un endroit, un appauvrissement général, en fait, de ce microbiote.
Évidemment, la diversité microbienne joue un rôle essentiel pour la santé de la nature et la nôtre. Chez nous, elle facilite la digestion et la mise en place d'une réaction immunitaire efficace. Un déséquilibre de la flore intestinale est associé à certaines maladies métaboliques et auto-immunes très présentes dans les pays industrialisés, mais également à des pathologies liées à la santé mentale. Finalement, on commence seulement à toucher du doigt l'importance de ce microbiote. Mais comment sauvegarder cette diversité si elle a tendance à disparaître ? C'est pour répondre à cette problématique que s'est lancée une nouvelle initiative sous l'impulsion de la microbiologiste Maria Gloria Dominguez-Bello. C'est le Microbiota Vault, autrement dit en français, le coffre-fort de microbiote. L'idée est de conserver des échantillons de microbiote humain et s'est inspiré de la réserve mondiale de graines du Svalbard. Concrètement, ce sont des échantillons de sel qui sont inventoriés, séquencés et conservés durablement en Suisse. C'est là que se trouve le coffre-fort. Une nouvelle étude parue dans Nature Communication liste tous les défis à relever pour mener au mieux ce projet.
Tout d'abord, envoyer des échantillons à l'étranger pour les stocker, c'est légalement et aussi réglementairement pas simple. Donc, on a déjà mis en place ce qu'on appelle en anglais un framework, où on a essayé de voir comment est-ce qu'on fait pour que les échantillons appartiennent toujours au pays et aux chercheurs qui les ont envoyés, mais qu'on peut les stocker ici dans une banque centralisée. Après, on a mis en place aussi le système en soi pour stocker ces échantillons. Et finalement, on a commencé à inclure un peu moins que 2000 échantillons qui venaient de quasiment tous les continents pour vraiment voir est-ce qu'on est vraiment capable d'échantillonner en fait ces sujets dans différents pays, notamment par exemple aussi en Éthiopie, dans des conditions assez difficiles comme c'était très loin de tous les congélateurs. Est-ce qu'on arrive de collectionner ces échantillons, les acheminer en fait juste en Suisse dans des bonnes conditions et quels sont les obstacles qu'on doit surmonter pour arriver à un bon acheminement en fait de ces échantillons. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une biobanque où on aurait des échantillons humains, mais aussi d'avoir à terme des échantillons de sol, des échantillons d'autres environnements pour vraiment représenter toute la diversité du microbiote.
Le choix de la Suisse n'est pas anodin. Le coffre-fort doit être à l'abri de tout conflit armé. Pour l'instant, 5 pays participent à ce projet. Le Laos, le Brésil, le Ghana, l'Éthiopie et bien sûr la Suisse. L'objectif dans 5 ans est d'augmenter la quantité d'échantillons de 2000 à 10 000 ainsi que le nombre de pays contributeurs. Il faut souligner que le Microbiota Vault détient un mandat de sauvegarde de ces échantillons. Il reste la propriété des pays qui les déposent et donc la participation se fait à l'initiative des États. Et ce n'est pas le seul projet mondial sur le microbiote. D'autres existent, comme le Global Microbiome Conservancy, un programme américain piloté cette fois depuis l'Allemagne. En France, nous disposons aussi d'un programme de recherche sur le microbiote. C'est le French Gut qui collecte des échantillons directement auprès de volontaires. Il y a déjà 30 000 participants, avec un objectif de 100 000 d'ici à 2029. Et pour l'instant, il n'y a pas la parité. 70% des volontaires sont des femmes. Chers auditeurs masculins, c'est à vous de jouer.
Solène Carneis, vous qui dirigez le service de prévention du risque infectieux des hôpitaux Bichat-Beaujon-Bretonneau de l'assistance publique hôpitaux de Paris, le microbiote, ça vous parle? Cette chronique excellente d'Alexandra vous parle.
Ouais, en effet, juste un petit mot pour réagir. Ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour préserver notre microbiote, donc les bonnes bactéries, c'est vraiment de limiter l'utilisation des antibiotiques. Et donc, on l'a déjà dit, mais
on y revient.
Le répéter. Voilà, ne limiter l'utilisation des antibiotiques qu'au strict nécessaire.
Et en suivant strictement aussi les prescriptions, parce que une ordonnance qui dit 5 jours, vous arrêtez au bout de 2 jours parce que vous allez mieux, c'est une catastrophe en fait.
Bah en tout cas, il ne faut pas prendre 1 jour sur 2, ça c'est la pire des situations.
Je voudrais pour finir qu'on puisse revenir sur des chiffres. Moi j'ai dit plus de 500 000 patients qui contractent une infection nosocomiale. D'abord, est-ce qu'on est sûr de ces chiffres? Et puis ils ont évolué, on constate que le risque avait diminué entre 2001 et 2012, stagné jusqu'en 2017 et que depuis il était à la hausse. Comment on explique ça? Et d'abord ces 500 000, est-ce que c'est vraiment... Tout est déclaré?
Alors, ces chiffres, ils sont très difficiles à vérifier. C'est pour ça que Santé publique France communique plutôt sur un patient sur 20 à peu près hospitalisé, parce qu'il y a des infections nosocomiales qui se déclarent après la sortie de l'hôpital. Et donc, c'est pas comptabilisé. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir des chiffres très fiables. Pour revenir à cette augmentation, il y a un point important, c'est évidemment le Covid, puisque dans cette augmentation qui a été constatée en 2022, ça inclut des cas de Covid nosocomiaux dans les hôpitaux britanniques au début de la pandémie. Un patient avec un Covid hospitalisé sur 4 avait en fait un Covid acquis à l'hôpital, donc d'origine nosocomiale.
Ah oui.
Au tout début, ça a diminué après, mais donc le Covid...
Il a impacté les chiffres.
Exactement, il a pesé fortement sur l'augmentation de ces infections nosocomiales. Et puis il y a un deuxième élément important. Bon, déjà le Covid a complètement désorganisé l'hôpital. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une désorganisation des soins, etc. Il a fallu qu'on se remette en ordre de marche. Et donc il y a eu probablement un impact sur les infections nosocomiales autres, d'une façon générale. Et le troisième point, c'est qu'en 2022, on prend en charge à l'hôpital des patients qui sont plus âgés, avec plus de maladies multiples.
Et il faut le faire.
Exactement, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse proposer des choses à ces patients-là. Mais on sait que de base, le risque d'infection de ces patients-là est plus élevé. Mm-hmm. Et donc, mécaniquement, ça peut expliquer une part de cette augmentation des infections nosocomiales qu'on observe. Et qui est limitée, quand même. On est sur des chiffres qui sont plutôt stables, avec une légère augmentation qu'on va surveiller.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais éventuellement pour compter ces infections nosocomiales avec des patients qui contracteraient une infection nosocomiale mais sans aucun symptôme? Parce qu'il y en a.
Oui, alors bien sûr, il y en a, mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'on parle plutôt d'une colonisation, donc c'est-à-dire qu'on peut héberger des bactéries résistantes sans avoir de symptômes.
Mais on peut dans ce cas-là être porteur et potentiellement contaminant.
Exactement. On peut être porteur, n'avoir aucun symptôme et transmettre cette bactérie. C'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant à l'hôpital, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de transmission intra-hospitalière. La bonne nouvelle, c'est quand on est porteur d'une bactérie résistante, en général, quand on rentre chez soi, en quelques semaines, on élimine cette bactérie résistante grâce au microbiote. Voilà. Et donc, en fait, les risques sont extrêmement limités pour l'entourage.
Voilà, encore une bonne raison de faire attention à son microbiote. Merci infiniment. On a mieux découvert ce que vous faisiez, ce que faisait votre service et c'était passionnant. Merci beaucoup à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swad. Et voilà, on peut me redonner votre nom, c'est horrible. Hein? Je le redonnerai après. Vous inquiétez pas qu'il a réalisé et mis en onde. Excusez-moi, Swad, je vous prie de m'excuser, vraiment.